Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir en ce premier jour du mois d'octobre, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous savons aussi, nous savons que vous êtes très nombreux aussi à nous suivre sur la 93.5. Merci de nous choisir pour ce deuxième numéro de l'émission Club de la Presse, puisqu'il sonne 11h, passé de quelques minutes sur la radio. Et merci de nous choisir pour ce premier numéro, ce deuxième numéro, de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itek aussi de TV assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takwame, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Merci à vous tous qui nous suivez aussi partout dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios en ligne, bien sûr, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays. Et d'ailleurs, et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, Eric Parkoudjo-Josson. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers grands frères, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu as bien démarré le mois.
J'ai bien démarré le mois, mais pas la semaine. Parce que, comme le dirait quelqu'un, dit les vœux. Ouais, voilà, tout simplement parce que, je dis, les gens qui ont touché aux journalistes, doivent savoir que nous sommes tous derrière nos confrères.
Tout à fait.
Ils ont fait une bêtise, je ne sais pas si je dois appeler ça une bêtise politique ou une bêtise humaine, en touchant à des confrères qui se retrouvent à l'hôpital parce que, tout simplement, ils sont en train de faire leur travail. Oui, même si on doit revenir sur le sujet, oui. Mais Pascal, il faut que je désapprouve ce fait, cette manière de vivre qui est d'une autre ère, qui n'est pas de notre ère forcément. Nous sommes au 21e siècle et je pense que les gens doivent forcément bien réfléchir avant d'agir. Les journalistes ne sont pas des ennemis, au contraire. Ce sont les journalistes qui permettent à toute la population dans une démocratie d'avoir l'information, d'être bien éduqué et bien se divertir, comme on dit, parce que notre trilogie est toujours là et je pense qu'il faut condamner cette attitude-là avec la ferme rigueur. Et je demande aux autorités de faire toute la lumière sur cette affaire-là pour que tous ceux qui ont touché aux journalistes répondent de leurs actes devant les tribunaux.
D'accord. Merci beaucoup, Eric, pour ce mot introductif. Et je le disais tout de suite, nous allons revenir largement sur le sujet dans cette émission, puisque c'est ce qui fait même d'ailleurs la une, et c'est ce qui est à l'actualité, ou c'est ce qui est dans l'actualité. Donc, nous allons revenir là-dessus. Ne vous inquiétez pas. On aura même d'ailleurs assez de temps pour discuter alors du sujet avec d'autres déclinaisons, avec les différentes réactions, même d'ailleurs des partis politiques et aussi des organisations de presse. Nous allons en parler dans cette émission. Mais bien avant, nous savons que nous sommes au mardi. Mardi, il y a Claude Assiobotis qui est là. Claude, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Claude, j'espère que vous allez bien.
Ah oui, ben il faut rester dans la résistance.
Dans la résistance,
la vie est une tragédie, il faut rester dans la résistance.
D'accord, c'est l'essentiel. Oui. Il ne faut pas rentrer dans cette tragédie avec la vie. L'essentiel, c'est d'avoir, de développer même une résilience et une résistance face à cette tragédie de la vie. Alors Claude, nous allons entamer la dernière ligne droite vers la littérature togolaise. Et ce serait une série alors de chroniques qui fera l'état alors des lieux de la littérature nationale avant de commencer à toucher à des œuvres ou des textes assez représentatifs de cette littérature. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui fait une certaine spécificité de la littérature togolaise et le palmarès alors des auteurs. Alors, Claude, est-ce qu'on peut dire que la littérature togolaise a une certaine spécificité ou est-ce peut-être simplement une portion à fondre alors dans la littérature africaine?
Oui, je crois que la littérature togolaise a une certaine spécificité. On peut le dire. Elle est marquée par un certain retard sur la grande aventure de ce qu'on a appelé la négritude. Ça veut dire, on ne veut pas revenir là-dessus, cette façon de réécrire plutôt sur nos réalités africaines. Développer des thèmes comme les ressources, le retour aux sources, le procès du colonialisme et la confiscation des indépendances par les pouvoirs noirs. Hein. Bon, le Togo, lui, n'a pas eu son camarade Lai, hein, et n'a pas eu son Mongo Betty, son Amadou Kourouma, vous en savez quelque chose?
Tout à fait.
Beaucoup d'élèves disaient, mais pourquoi est-ce qu'il y a des écrivains togolais? Ils se posaient la question. À l'époque, là, le Togo n'a pas eu tout ça. Mais le Togo s'est rattrapé un peu tard. Il s'est rattrapé, bien sûr, il s'est rattrapé, si je fais la tautologie, un peu tard. Et s'il y a eu une brève rupture, il y a eu un grand saut qualitatif, hein, avec trois écrivains majeurs, Agbota Zissou, et Kossiefi et Kanyalem. Hein, ils tous ont reçu le même prix, un prix très crédible, qui est le prix du théâtre interafricain, un prix, un très grand prix, qui a placé la barre très haut, très haut. Et alors, ça a une conséquence sur les écrivains d'aujourd'hui. D'abord, est-ce que c'est une conséquence positive? Non, pas tout à fait. D'abord, parce que ils ont placé la barre si haut, et comme ils sont venus très en retard, et ça a été une petite rupture, on est vers la fin même de la chute du mur de Berlin. Et je crois que les auteurs, les jeunes auteurs, ils n'ont pas marqué les jeunes auteurs. Ils ont préféré plutôt d'autres auteurs plus accessibles qui n'ont pas, eux, placé la barre très haut. Par exemple, Gadami qui a écrit L'étrange héritage, qui a marqué plutôt les femmes avec son thème d'amour, parce qu'elle a aussi un prix France Togo. Et il y a eu surtout le phénomène Yves-Manuel Dobé, dont l'œuvre a duré longtemps au programme, et ça a marqué les jeunes écrivains. Et puis, je vais chuter le papa là, et il y a eu... Mais ces jeunes écrivains d'aujourd'hui ont le mérite, par leurs œuvres, de poser une question insidieuse, hein. Est-ce que nous allons toujours rester là à écrire sur nos réalités? C'est ça ce que le problème que pose aujourd'hui la littérature togolaise. Est-ce que nous allons rester là toujours à écrire sur nos petites réalités, l'ancrage culturel, ou s'ouvrir au thème universel, hein? Parce que moi, j'ai eu un Espagnol qui m'a dit, ce qui manque à votre littérature africaine, c'est la profondeur. C'est souvent, on fait des contes, l'écriture c'est pas mal, tout ça, mais la profondeur.
C'est-à-dire, cette littérature n'est pas profonde.
N'est pas profonde. Bon, est-ce qu'ils ont raison, j'en sais rien. Mais est-ce qu'on doit rester toujours à nos thèmes d'Africains? On a l'impression que être écrivain africain, c'est écrire sur nos réalités. Tant que vous avez écrit, on ne trouve pas le serpent, petit serpent noir, le baobab, tout ça. On a l'impression que ce n'est pas assez de la littérature africaine. Est-ce que nous devons en rester là? C'est un débat.
Et juste parce que c'est un débat. Et voilà. Ou bien aller au-delà même de cela. Eric?
Oui. Claude, tu viens de citer trois auteurs importants. Agbota Zissou, Kanyalem, Kossiefu. Alors, où est-ce que tu places David Ananou, Félix Koussouro et dans ce classement?
Oui, on va y revenir, puisque peut-être qu'on va y revenir. Et David Ananou et Koussouro étaient de l'époque de l'effervescence de la littérature africaine. Oui. Mais leur thème était contre-saison. Au moment où
le fils du fétiche,
Au moment où le camarade là il vantait l'animisme, le petit serpent noir, nos réalités africaines, et puis David Ananou partait en guerre contre justement cet animisme vaudou là, et qu'il a descendu. Et lui, il est catholique, n'oubliez pas. Et il s'est moqué éperdument, largement dans son œuvre, du fétichisme et de tout ce qui l'entoure. Voilà, donc il était en contre-saison. Alors que la négritude était. C'est ça qui a fait que. Mais la qualité de son écriture a fait que. Il n'est pas tellement visible avec les êtres invisibles. Et Koussouro, c'est après qu'on l'a réhabilité. Et Koussouro, c'est la même chose. Hein? Et c'était des thèmes. À l'époque, il fallait, si c'était le colon, il fallait cogner le colon pour lui faire mal. Et c'est ça la littérature. Et si vous faites autre chose, alors vous n'êtes pas adulé. Voilà à peu près leur malheur. Mais la qualité de littérature a survécu. Et aujourd'hui, dans les universités, ils sont réhabilités et ils sont devenus des classiques, des écrivains représentatifs de la littérature togolaise.
D'accord. Alors, Claude, si on veut classer le palmarès alors des auteurs togolais, comment le classerez-vous, hein? C'est-à-dire, ce classement donné au palmarès de la littérature ou des auteurs togolais, quel est ce classement que vous verrez?
On peut classer de trois façons.
Oui.
Il y a le classement éditorial. Il y a eu le compte d'éditeurs, ça veut dire. Vous écrivez vos œuvres, c'est l'édition qui évalue et qui accepte de publier ou de rejeter. Et ça, c'est ce que les NEA ont fait. Les NEA au Togo ici,
tout à fait.
Nouvelle édition africaine. Okay. Et après, a suivi la publication à compte d'éditeur. Donc, ça, deux réalités là, on peut, à partir de ces deux réalités, diviser la littérature togolaise. Mais il y a eu ce que je peux appeler aussi la subdivision spatiale, hein, des écrivains de l'extérieur et les écrivains de l'intérieur. Et ça, on comprend. Et c'est, aisément, ça se dit tout seul. Vous savez qu'il y a beaucoup d'écrivains à l'extérieur. Il y en a aussi à l'intérieur. Mais il y a aussi ce que je peux appeler la classification spatio-temporelle ou simplement temporelle. Ce que j'appelle les écrivains absents et les écrivains de proximité. Les écrivains absents, c'est les exilés, c'est les décédés, hein, et voilà, et ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont décédés et ceux qui sont exilés. Les exilés de proximité, ceux qui sont là, si vous voulez leur téléphoner, tout de suite, je peux vous donner leur numéro. Voilà. Ils sont là à côté.
Voilà, ce sont là les auteurs. Vous avez donné même d'ailleurs une belle définition, hein, sur les auteurs absents et les auteurs également de proximité.
Oui.
Et vous dites même d'ailleurs que pour ce qui concerne les auteurs de proximité, c'est des gens qui sont à côté et que on peut facilement toucher. Alors, aujourd'hui, quel est l'impact même d'ailleurs de ces auteurs, hein, ou des écrits de ces auteurs sur la société?
Et quel auteur?
C'est-à-dire ceux qui sont proches, c'est-à-dire la proximité, oui.
Oui, mais je l'ai déjà plus d'une fois dit ici. Ils sont, en général, aujourd'hui, la littérature togolaise n'est pas visible. Pour parler d'impact, c'est maintenant qu'on est en train de voir comment les insérer au programme. On l'insère au programme. On va voir ce que ça va donner. Et pour le moment, les élèves n'ont pas la possibilité d'acheter ce livre, sauf à Lomé. Ces œuvres ne sont pas étudiées à fond. Parce que dans la promotion de la littérature, on n'a pas inscrit le volet critique littéraire. Critique littéraire. C'est lorsque les critiques accompagnent ces œuvres-là que ces œuvres sont visibles. Et d'ailleurs, vous et moi, et vous avez eu l'heureuse initiative chaque mardi de m'inviter ici. Et c'est ce qu'on essaiera de faire un temps soit peu,
Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Claude. Eric, vous avez...
Oui, je dans ce classement-là, je pense que tu as oublié un peu Edem Kodjo.
Oui,
Yves-Emmanuel Dogbé, qui ont été également des pontes de la littérature togolaise.
Eh oui, c'est vrai. Mais Edem Kodjo, il est à cheval. Mais je le prends parmi les... Je le classe et parmi les écrivains aujourd'hui décédés. Il y a d'autres décédés. Mais il était aussi absent. Et il était proche. Il était puisqu'il était au pays. Et surtout, lui, il a brillé par ses essais. C'est tout dernièrement qu'il écrit des œuvres purement littéraires, hein, avec ses 50 ans de dépendance, adressé au etc. Et puis il y a le.
Et demain l'Afrique.
Demain l'Afrique, ça c'est un essai. Ouais. Un grand essai qui a emballé toute l'Afrique. Tous les Africains connaissent cette œuvre-là.
Ouais.
Et si il faut classer cette œuvre-là, on peut classer même cette œuvre-là parmi les chefs-d'œuvre de la littérature, enfin, des livres africains, du moins. Hein, beaucoup d'Africains.
D'accord. Merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Merci d'avoir donné ces conséquences, enfin, ces connaissances, j'allais dire, de nous avoir donné alors ces connaissances littéraires. Merci d'être passé. Nous allons nous retrouver le mardi prochain. C'est bien ça, Claude. Merci beaucoup, chers confrères. Alors, nous revenons en studio et nous sommes rejoints par notre confrère et Justin Anani. Justin, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Pas mal, Dieu merci.
Dieu merci, c'est l'essentiel. Viens commencer le mois, puisque c'est le mois d'octobre.
Hein? Oui, apparemment, c'est le début aujourd'hui. On a démarré la semaine depuis... Depuis hier.
Et pas à pas, l'année s'égrène vers sa fin.
Ici, oui, progressivement. Oui. On s'achemine vers la fin de cette année.
Tout à fait.
Et si vous me permettez, j'aimerais joindre ma voix à celle de mes confrères qui m'ont précédé tout à l'heure. Et on ne peut pas se permettre dans une république qui se dit état de droit de violenter les hommes des médias. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, mais je profite de l'occasion pour souhaiter prendre l'établissement à nos confrères qui sont blessés, qui sont encore sur le lit de l'hôpital en ce moment, et dire à ces voyous, à ces bandits, à ces malfrats, à ces terroristes, je dirais, par rapport à ce qu'on a vécu la fois dernière, que quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Et ils vont répondre d'une manière ou d'une autre de leurs actes.
D'accord.
Je finis en lançant un appel à l'endroit de tous nos confrères d'être vigilants. Et je profite également de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à notre joyeux, lorsque la TV Bénézère, qui a soufflé une bougie de plus le dimanche dernier. Et santé à lui et à toute sa famille. Et lui dit que tout ce qu'il a eu à apporter à ce pays n'est pas vain. Nous le reconnaîtrons à jamais. Nous avons eu la chance d'être formés par lui et que de lui dire d'avoir beaucoup de courage. Et je finis par dire que quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra.
D'accord. Sam Diabo, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de la nouvelle génération.
Vous avez préféré appeler les auditrices premièrement.
C'est ce qui nous a été enseigné dans ce studio. Quand on commence par le sexe masculin, on a dit que il y a des remontrances.
Il y a des subtilités.
Alors, peut-être pour ne pas être trop redondant,
tout à fait.
Eric en a parlé, je sais aussi. Et comme l'émission, il y aura une belle partie qui sera consacrée à cet incident du week-end, je préfère garder des argumentaires pour les développer. Mais avant peut-être de lancer l'émission, je voudrais dire bonjour à un honorable député, un homme de grand cœur qui a encore fait parler sa générosité. Dans la préfecture de Loti, il s'agit de l'honorable Noël Depoken, qui a fait don de matériel didactique des équipements sportifs et des, de l'équipement pédagogique à tous les établissements de l'enseignement secondaire de la préfecture. Donc, c'est une occasion pour nous de solliciter aussi les bonnes volontés, d'autres bonnes volontés qui peuvent lui emboîter le pas dans d'autres préfectures, mais dans d'autres régions aussi, pour donner un coup de pouce à l'éducation. Le gouvernement en fait énormément, mais aussi les bonnes volontés qui viennent à côté aussi, ça ne sera que de un peu de viande dans une sauce déjà où il y a déjà du poisson.
D'accord. Voilà. Et comme on le dit d'habitude, trop de viande ne gâte pas la sauce.
Voilà.
Voilà. Alors, cette voix qui nous a manqué et qui est de retour, et je parlerai même d'ailleurs de grand retour au Bekaï, c'est bien la voix de Isidore Akolo. Isidore, bonjour.
Bonjour à toi, Pascal. Bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices qui n'ont cessé de m'appeler, de m'interpeller, pourquoi je ne viens plus dans cette émission. Je ne veux pas ressasser.
Tout à fait.
Ce qui s'est passé. Je suis un homme de principe. Heureusement que le directeur m'a appelé de revenir. Et j'y suis.
Vous l'avez si bien dit, vous n'allez plus ressasser, donc l'essentiel c'est que vous êtes là, et j'espère quand même que c'est pour de bon.
Il est respectueux de la confraternité.
c'est
une raison de plus pour te dire, laisse-moi parler.
C'est l'ami personnel d'Eric.
C'est l'ami personnel d'Eric.
Pas de chantage.
Non, c'est... Mais ce qui est sûr, Isidore, rassure-nous que c'est un retour pour de bon.
Oui, pour de bon.
D'accord.
Ça me non, je sais que quand vous ne me voyez pas arriver, tu serais inquiété.
Tout à fait.
Mais...
Puisque moi-même aussi,
Moi, je n'étais pas inquiet en tout cas.
Je suis un homme de parole.
Tout à fait.
Je suis un homme de parole. Je n'ai pas ma langue dans la poche.
Voilà, je le sais. Ça, je vous connais.
Et ça, il faut qu'on puisse... nous le permettre.
Ça, je vous connais sur ça. On va pas.
Moi, en tout cas, je ne suis pas inquiet.
D'accord. Ce qui est sûr, votre ami personnel n'est pas inquiet. Donc, alors, c'est bien, c'est pour amuser justement la galerie. Merci, Isidore, d'être avec nous. Et merci pour ce bon retour. Alors, c'est vrai que quand je vous ai donné la parole tout de suite, chacun de vous a su quand même dit quelque chose sur l'incident du dimanche passé, le dimanche 29 septembre. Et cet incident fait que même le Togo fait parler de lui dans le monde entier, puisque depuis hier, les médias dans le monde ont commencé par parler alors de cet incident. Et aussi, quand on prend au Sénégal, pratiquement les presses parues aujourd'hui au Sénégal, hier et aujourd'hui, en ont parlé. Et même il y a le gouvernement sénégalais également qui a réagi par rapport à cet incident, puisque il y a l'un des leurs, c'est-à-dire un des fils sénégalais qui a été victime même d'ailleurs dans cet incident. Il s'agit bien du député Guy Marus Sagnan. Ici au Togo aussi, l'incident fait vraiment un remous dans la presse, et beaucoup de gens en parlent, et également ça fait débat dans nos studios. Ça doit faire encore débat tout de suite, où nous allons encore en parler. Alors, c'est vrai, Eric, quand on prend cet incident dans sa forme et tout ce qui s'est passé, puisque nous n'allons plus revenir sur le développement même d'ailleurs de l'incident, puisqu'on en avait parlé largement hier, mais est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé concrètement?
Qui peut comprendre ça? Personne ne peut comprendre ce qui s'est passé. Mais moi, je voudrais tout simplement dire, si c'est quelque chose qui a été organisé,
prémédité.
Excusez-moi, mais ça a été mal planifié. Parce que, en réalité, et jusque-là, on s'est attaqué à un député d'un pays, frère et ami, sans attendre qu'il prononce des phrases ou des mots qui touchent. On aurait pu dire que c'est parce qu'il prononçait un discours que les gens n'ont pas aimé que l'incident s'est produit. On aurait pu attendre qu'il commence par développer ses idées avant de commencer par jeter des chaises et crier ce qui a été fait le dimanche passé. Personne ne peut comprendre cela parce que, en réalité, il y a un parti politique qui, logiquement, doit fonctionner. Et donc, fonctionner, ça veut dire se regrouper, se retrouver, discuter et recevoir qui il veut. On peut avoir des personnes ressources au cours des réunions. Maintenant, si nous allons un peu dans le fond de ce qui s'est produit la dernière fois, on va se demander qui, de quel bord, de quel côté viennent ceux qui ont commis cette forfaiture. Je pense que nous devrons prendre le temps d'analyser tout ceci avant de nous prononcer en disant voilà, c'est elle qui a envoyé, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a planifié, c'est elle qui a organisé. Je pense que à l'instant où nous sommes, il y a des voix qui se sont élevées pour dire que tout le monde reconnaît. Il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas un bord qui n'a pas reconnu qu'il s'agissait d'une bêtise. Parce que, comme je le disais tantôt, nous sommes au 21e siècle. Et nous sommes un pays qui est en train d'amorcer ou qui est en train d'asseoir une forme de démocratie. Et comme telle, la démocratie, c'est quoi? C'est la libre expression. Libre expression dans, sous toutes ses formes. Il faut que l'on laisse son prochain s'exprimer sur des sujets qui concernent la vie de la nation.
D'accord.
Maintenant, il s'agit de quelqu'un qui a été invité. Sur quoi allait-il se prononcer? Qu'est-ce qu'il allait dire concrètement? Quel était l'ordre du jour? Et comment allait-il aborder quand même les sujets qui lui ont été proposés? Je pense que c'est ce qui est important de savoir avant de comprendre ce qui s'est passé.
D'accord. Isidore Akolor,
oui.
Vous êtes journaliste et vous avez vu également la manière dont des confrères journalistes ont été traités dans cette affaire le dimanche. Il y a des gens qui ont été bastonnés, des journalistes y compris. On citait même d'ailleurs les confrères hier dans notre émission ici au Club de la Presse. Il y a Sainte Blondreau, il y a Oclousset, il y a également Godfrey Akpa, Yvette Soussou, et Albert Beko, tous ces journalistes-là qui ont été victimes même d'ailleurs de ce que nous, vous m'excusez le terme, de cette barbarie. Comment vous pouvez comprendre cela, Isidore?
Non, moi j'applaudis ceux qui ont fait ça. Je vais vous choquer.
Comment ça?
Je les applaudis. Et je les encourage à continuer dans cette république bananière. Je vais vous choquer. Je vais choquer aussi l'opinion. Je les encourage à continuer. Ils montrent le vrai visage de la démocratie togolaise. Ils n'ont qu'à continuer. Ils rendent service à leur chef, Fronia Simbe, que j'interpelle de faire le ménage. Ceux qui font ça ne l'aident pas du tout. Il avait dit plus jamais ça.
Effectivement,
ça fait combien d'années? Et qui croirait qu'aujourd'hui, ces nervis-là sont encore entretenus? Souvenez-vous, 2006, 2016 ou 2017, au niveau de
ADEWI,
on nous a dit que c'est des groupes d'autodéfense qui sont en connivence avec les forces de l'ordre. Mais ne sont pas des enfants. Ce qui s'est passé dimanche, j'en serai victime. du haut de mes 60 ans dépassés, je ne peux plus courir. Heureusement pour moi. Parce que c'est un copain qui m'appelle, Doyen, je ne te vois pas. Tu me vois où? Il a dit, tu devais être là. Où? Que la rencontre avec le député sénégalais. Mais ah, j'aurais bien voulu, mais on ne m'a pas invité. Donc, je ne m'invite pas dans aucune manifestation. Il dit, quand même, il faut venir. Je ne viens pas. Sinon, j'en serai une des victimes.
Mmh. Isidore,
c'est... Voilà. Oui, voilà. Ce qui s'est passé là, c'est ahurissant. C'est ahurissant. On n'a pas de mots. Mais vous vous attaquez aux politiques. Vous êtes politique? Moi, je ne suis pas politique. Apprenez-vous votre politique. Pourquoi les journalistes, ceux qui sont allés apporter l'information, couvrir l'événement, est-ce que ça s'est passé une fois quand UNIR ou RPT faisait ses activités? Ce n'est pas normal. Et j'ai oublié de dire que déjà à 10 heures, il y a des forces de sécurité qui circulaient. On les a interpellés. Qu'est-ce que c'est pour votre sécurité? Et que ces derniers, aujourd'hui, quand vous lisez le communiqué de la police, ben, je tombe des nuits. Je tombe des nuits.
C'est la police.
Je tombe des nuits. Vous êtes là, vous suivez la scène. Vous ne réagissez pas. Donc, ce sont vos éléments.
D'accord. Et vous l'avez si bien dit que normalement, vous devez être même aussi victime si vous étiez parti là pour assister à cette réunion.
Heureusement qu'on n'a pas invité.
Oui, mais nous étions. En plus, on nous a invités.
Ah bah heureusement pour voilà. Toi, comment tu t'as fait?
Effectivement, c'est.
Donne-moi la clé.
Je suis même d'ailleurs, en quelque sorte, moi et Justin et moi.
Mais dites-moi, en quelque
sorte, des rescapés alors de cette
violence.
Voilà, et Justin, quand on a vu ce qui s'est passé le dimanche dernier, où on bastonnait des gens, où on molestait des gens, et on se posait même des questions de savoir, mais écoutez, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Bon, on peut tout imaginer, on peut tout analyser, on voit dans la prévision, à peu près, que ces genres d'événements ou d'incidents arrivent à répétition au Togo. Et ça ne date pas d'hier ou ni du dimanche dernier.
Pierre Sané en a été victime
oui,
aussi.
Oui, sauf que la portée, 2003. L'analyse qui est faite avec la présence d'un élu du peuple sénégalais au Togo, qui est là dans le cadre d'une session délocalisée de la CEDEAO et qui est invité à venir participer à une rencontre citoyenne. D'abord, le premier lieu indiqué a été annulé et la manif a été délocalisée au siège d'un parti politique légalement constitué. Allez-y lire la charte des partis politiques, vous allez comprendre. Mais empêcher une manifestation, ça peut se comprendre. Vous et nous, on était là la fois dernière, on a vu le degré
tout à fait
de la violence inouïe dont les mots nous manquent pour qualifier. Non, comment ça s'est passé? C'est parce que j'étais pas. Je suis revenu des lacs dans une émission, ordinairement les dimanches. Le temps de prendre les dispositions à la maison, de venir, voilà, j'ai reçu un invité. Bon, les échanges, ça a traîné un peu. Donc ça a commencé, je venais à peine quand les gens sortaient de. Du siège de la CDPA où tout est cassé, on bastonnait les gens. Mais ce qui est fondamental, et quand j'ai suivi le communiqué de la police et l'intervention également de la madame la ministre, les deux personnalités ont manqué une occasion de se taire.
Parce que lorsque vous lisez le, vous lisez le communiqué de la police parle de, du siège de la CDP à Hankopé.
À Hankopé.
La scène ne s'est pas produite à Hankopé, justement.
Je suis intrigué.
Je n'ai pas compris.
Personnellement, quand je l'ai lu aussi, je n'ai pas compris.
Je n'ai pas compris.
Parce que la police devait avoir une précision.
Voilà. C'est pour le siège. On nous dit que la manif est interdite dans un endroit et que ça a été signifié aux organisateurs et que dans le cas d'espèce, il n'y a pas de papier. Sa conviction montrant que
ça veut dire que une chose. Si je veux organiser une fête dans ma maison, hein, je dois appeler les forces de sécurité.
Non, je vous livre juste une partie du communiqué de la police. La police écrit hein, toutefois, des informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état de ce que l'honorable Guy Marius Sagna devait animer une manifestation publique organisée dans des conditions irrégulières. C'est alors que l'intéressé a été dûment informé des risques que comportaient ces activités projetées en marge des travaux du Parlement de la CEDEAO en violation des lois en vigueur au Togo. Aussi a-t-il été clairement avisé de l'interdiction de la réunion projetée dans les enceintes d'une église de la place, ceci conformément aux dispositions régissant l'exercice de la liberté de réunion et de manifestations pacifiques publiques au Togo.
Ce sont l'église, il faut à Moutievé,
oui,
Saint-Augustin.
Oui, normalement, ce sont des arguments qui ne tiennent pas. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la police a marqué vraiment une occasion de ce test, tout comme Madame la ministre porte-parole du gouvernement, dans ses exposés d'explications, qui, moi, me portent à conviction. Je n'arrive pas à comprendre, parce qu'on a vu tout ce qui s'est passé la fois dernière. Admettons que le député sénégalais, le député parlementaire de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, est au Togo dans le cadre d'une session délocalisée de la CEDEAO. Lorsqu'il est député de la CEDEAO, il est député de tous les États membres de la CEDEAO.
C'est ce que le gouvernement sénégalais a dit.
Voilà. Ça, et vous allez consulter la loi internationale, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, le député est au Togo, ce qui suppose qu'il est le député du Togo. Lorsqu'un député togolais organise une manifestation et l'invite à venir participer, surtout que c'est une rencontre citoyenne qui va se dérouler dans l'enceinte ou au siège d'une formation politique légalement constituée, ça ne peut pas porter à conviction. Mais en revanche, lorsque le communiqué de la police dit que les corps habillés qui étaient là faisaient les rondes, faisaient je ne sais pas quoi... Et que nous, on a vu le détachement de la gendarmerie positionné là. Les gendarmes n'ont pas eu le temps même de descendre de leur véhicule. Ils étaient là en spectateur. Ils ont observé tout ce qui s'est passé. Le député tabassé traînait. Moi, j'ai vu toutes ces scènes-là. Parce qu'à un moment donné, notre confrère Lansou, comment on l'appelle, Robiat, a été identifié comme quoi il avait une caméra. Donc, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pris ma moto très rapidement. Et je lui ai remonté et on a fui les lieux. Mais après, je suis revenu. Ces gens-là, mais moi, je les ai vus. Puisqu'il y a un groupe qui a pris la direction, ouest en allant vers le marché de Bair. Il y a un autre groupe qui a pris la direction est en allant vers le marché d'Akoresiwa. Mais à un moment donné, j'ai vu 10 ou 12 personnes qui étaient regroupées. Mais ils s'exprimaient dans une langue nationale que je ne voudrais pas citer ici. Donc, à un moment donné également, par rapport à ce qui nous a été relevé dans l'interview, où l'ordre a été donné, l'ordre de repli a été donné, on nous a expliqué ça.
Tout à fait.
Les gens nous ont dit qu'ils ont fréquenté avec un certain nombre de personnes dans le groupe qui leur a informé bien avant le début de la manif comme quoi de se replier, de ne pas participer à la manifestation. Ça voudrait dire quoi? Tout a été planifié. Mais moi, ça ne m'étonne pas.
Et moi, je les encourage à aller
je suis pas là.
Oui.
Dans les années 90 ou 91, on parlait de processus de délocalisation. On a vu des gens qui s'organisaient, que ce soit au niveau du campus, qu'on
a jeté la suite sur moi.
Voilà. Donc, qu'on a identifié. On a évolué. Je ne vais pas citer tout ce temps-là. Mais rappelez qu'en 2005, ce qu'on a vu, les gens ont été transportés dans les véhicules de Sototol. Et ça a été révélé devant la CBJ et tout. Le chef de l'État a dit plus jamais ça. Mais je me rappelle qu'en 2010, lorsque FRAC avait présenté le président Jean-Pierre Fabre comme candidat de l'opposition, Et dans ces revendications où les matériels ont été ramassés, les ordinateurs ont été ramassés au niveau de César, des manifestations ont été organisées, notamment les prières tous les mercredis. Je me rappelle qu'un officier a tapé M. Jean-Pierre Fabre devant, comment on l'appelle, Confédération nationale des travailleurs du Togo, devant là, sur le boulevard. CNTT. C'était un mercredi parce qu'ils ils avaient encerclé le coin avec les services de renseignement du SRI à l'époque. Et Jean-Pierre Fabre, qui était arrivé dans son véhicule, il sortait à peine. Mais l'officier s'est rapproché de lui pour dire, mais qui tu es têtu comme ça, on vous dit que la manifestation est interdite et vous persistez. L'officier l'a tapé dans le dos. Ça, mais je me rappelle, c'était devant nous. Il y avait eu tellement, des événements. Ça voudrait dire que tout ce qui s'est passé là, c'était vraiment planifié.
D'accord.
Et quand on nous dit aujourd'hui que ce sont les militants de la CDPA ou de la DMP qui se sont rentrés dedans et puis par après, c'est des arguments qui ne tiennent pas la route.
D'accord.
Nous ne sommes pas des idiots là.
Merci. Oui, merci. Bon, oui, mais on laisse Sam Diabo aussi se prononcer sur le sujet. Sam, c'est vrai, vous l'avez évoqué tout de suite. C'est un incident ou c'est un...
Incident
c'est un phénomène qui a été inexplicable. Puisque je l'ai vu de mes yeux, permettez la tautologie. Je n'arrive pas à l'expliquer. Est-ce que vous pouvez l'expliquer?
Non, Eric avait dit que personne n'a le monopole de l'explication de ce qui s'est passé dimanche. Mais moi, avant tout propos, moi je devrais condamner avec la dernière énergie toute violence, qu'elle soit politique, religieuse, sous toutes ses formes, moi je condamne les violences. Mais en même temps, dire que s'il y a quelqu'un qui doit être malheureux de cet incident, ça doit être bien le chef de l'État. Parce qu'il ne peut pas avoir fait tout ce combat. Je me rappelle de 2005 à 2010, il a mis le paquet pour réconcilier les Togolais avec eux-mêmes. Les résultats sont là, la CVGR, le H-Crown. Ça dit c'est pour qu'on exorcise le Togo de ces violences politiques. Souvenez-vous, avant 2006 ou avant même 2010, je passe sous le contrôle de mes doyens qui sont ici, doyens en âge, bien entendu. Il y a une année où on ne pouvait pas porter le t-shirt du RPT pour aller à Hébert. Ce n'était pas possible. De la même manière, on ne peut pas porter le t-shirt de UFC pour venir à Déby. Ce n'était pas possible. Mais tout ça, là, ça a été un travail de longue haleine. Donc le chef de l'État, et c'est dans ce contexte même qu'il disait à Tapamé, plus jamais ça, pour dire que le Togo n'a plus besoin de ces violences politiques. En même temps où on parle de violences politiques, on mène une lutte farouche contre la violence politique, on mène également une lutte contre les violences et l'extrémisme violent. L'extrémisme violent, ça peut être religieux, ça peut être aussi politique. Donc, moi, je pense que si quelqu'un doit être le premier mécontent, c'est le président de la République.
Mais justement, avant de continuer, si le chef de l'État est également mécontent lors de cela, depuis peut-être alors, le dimanche que la scène s'est passée, on aurait quand même l'écouté.
Pourquoi vous attendez? Il y a le porte-parole du gouvernement qui est intervenu. Mais en au niveau de la sous-région, vous avez vu la cote de popularité du Togo dans un passé très récent. Le Togo qui est pratiquement sur tous les fronts, le Togo qui n'est ennemi à aucun État, et qu'on se retrouve aujourd'hui des Togolais qui tabassent un citoyen dans notre pays, je pense qu'il y a un problème. Quand les gens disent que Mme Kuigan, la ministre de la Communication, sa sortie n'avait pas sa raison d'être, moi je pense que c'est à l'issue d'une enquête sérieuse qu'on peut identifier ceux qui ont fait ça. Parce que vous étiez là-bas, moi j'étais pas là.
Tout à fait.
Il y a des gens qui ont dit dans leurs interventions qu'on a reconnu des gens.
Tout à fait.
Des certains qui sont des services. On a cité des services. Ça veut dire que le procureur de la République peut faire des appels à témoins. On peut demander même à des gens qui ont des informations sur l'identité de ceux qui ont opéré là-bas de venir donner des noms pour qu'on puisse mener une enquête sérieuse. Les gens vont dire que souvent des enquêtes s'ouvrent mais ne se referment pas. Moi, je me rappelle en même temps que depuis l'époque du général Yark au ministère de la Sécurité, il y a des forces de l'ordre qui ont commis des bavures, qui ont été sanctionnées, d'autres même radiées du corps de l'armée. Avec l'actuel ministre de la Sécurité, il y a eu des bavures à Kara, où je crois que c'est un dépanneur qui a été pris à partie par des forces de l'ordre. Des gens ont été sanctionnés. Donc moi je pense que nul n'est intouchable dans ce pays et que c'est à l'issue d'une enquête qu'on peut identifier ceux qui ont opéré. Mais en même temps, j'ai des questions qui me taraudent l'esprit, que je me pose à haute voix. La première des choses, le député, l'honorable député Guy-Marie Sania, est arrivé à Lomé dans le cadre d'une session délocalisée de la SUDEAO. Alors, la question que je me pose, ça veut dire que tous les participants de cette session, le Parlement de la CEDEAO a l'obligation d'assurer leur sécurité, s'ils connaissent leur agenda. Est-ce que le député Guy-Marie Sania, en allant à la réunion, est-ce que le Parlement de la CEDEAO est informé? C'est la première question que je me pose. La deuxième question que je me pose, et peut-être qui peut être aussi la question que d'autres aussi peuvent se poser en même temps, vu que la réunion se tenait au siège du parti, d'un parti, la CDPA. Ça veut dire que ce n'est pas une réunion à ciel ouvert où monsieur tout le monde peut venir. Est-ce que la CDPA a pris des dispositions pour éviter des infiltrations? C'est des questions que je veux.
D'accord, c'est des questions aussi pertinentes que vous posez. Oui, Isidore, oui.
Je vais peut-être le fil. Oui. Parce que tout à l'heure, le confessant faisait allusion par rapport à ce que la madame la ministre a laissé entendre. Mais je fais observer, quand vous écoutez madame la ministre, et lorsqu'elle a chuté en demandant peut-être l'ouverture d'une enquête indépendante sérieuse, mais dans le déroulé de ses commentaires, il a déjà indécé les militants des organisateurs comme étant des gens qui sont rentrés dedans, et la conséquence, voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'elle a des informations. Si tant est que c'est parce que les organisateurs, les militants des organisateurs qui étaient arrivés là, et que c'est par quelle chimie ils se sont rentrés dedans, et que la conséquence, on a tabassé les journalistes, on a ramassé les effets, on a ramassé les portables, on a ramassé les sacs, on a jeté le groupe électrogène dans le puits, les baffes, les appareils sonores, on a tabassé tout le monde.
Et ce sont les matériels des journalistes.
Les journalistes, les militants se sont rentrés dedans, ils ont pris les cailloux devant nous, ils ont caillassé les pare-brises des véhicules, pas un, pas deux, pas trois, avec cette volonté vraiment de tuer. Mais moi je me pose beaucoup de questions. Mais attention, parce que on doit faire énormément attention dans cette histoire-là. Parce que aborder une question aussi sensible qui risque de tenir l'image du pays et de provoquer l'incident diplomatique entre le Togo et le Sénégal, je pense qu'on doit faire énormément attention.
D'accord.
C'est pourquoi tout à l'heure, je faisais observer qu'un député du Parlement de la CEDEAO, il est le bienvenu au Togo, tout comme en Guinée, tout comme au Nigeria, tout comme au Bénin.
Maintenant, pays à l'ordre de la
CEDEAO. Maintenant, si le parti de l'honorable Sania, de Sonko, Diomaye Faye au Sénégal, ont un lien d'amitié ou de relation, ou pas la vision d'un parti politique ici, et que le député est invité pour une manifestation publique dans un lieu, et le lieu est interdit, et que la manifestation est ramenée au siège d'un parti politique légalement constitué, je ne pense pas qu'il faille faire une infiltration et commettre ce qu'on a vu, la barbarie, la violence inouïe qui ne dit même pas son nom, d'une autre génération et dont les auteurs sont bien connus.
D'accord. Alors, je vous livre
la réaction. Une question.
Oui, mais voilà.
Chercher à mieux comprendre.
La question m'était posée.
Ce que Jussel dit.
Non, pas
parce
vous.
Parce qu'en fait, Jussel dit que peut-être que le
pasteur
de Guy-Marie Sania a des affinités avec la DMP ici, et que ça peut être... Mais il faut rappeler que Guy-Marie Sania est à Lomé dans le cadre d'une session du Parlement de la
CEDEAO. Ça n'empêche qu'on l'a vu.
Il est venu du Sénégal pour participer à une activité du parti. Là, moi, je comprendrais mieux. Oui. Ou bien on fait l'amalgame, ou bien on éclaire.
S'il vous plaît. Allons-y un à un. Isidore, vous avez la parole.
Non, je laisse ça à
ton
grand-frère. Non, c'est mon petit frère. Il est géant, mais...
D'accord, ok.
Merci pour la garantie. Je pense qu'il faut, en allant dans le fond de l'événement, il faut aussi qu'on condamne le fait que des dispositions n'ont pas été prises pour assurer la sécurité du député sénégalais. Vous savez... Il ne faudrait pas occulter le fait qu'il est là dans le cadre d'une session parlementaire communautaire. Par conséquent, il faudrait logiquement que sa sécurité soit assurée par les autorités togolaises. Alors, ce qui me fait dire que tout déplacement d'un député qui est là dans le cadre de cette session-là doit être suivi. Maintenant, quand on arrive au siège de la CDPA, vous savez que il faut toujours interroger l'histoire. Rappelez-vous que Pierre Sané, secrétaire exécutif d'Amnesty International,
un Sénégalais
de surcroît par rapport à ce qui s'est passé, arrivait à Lomé pour des échanges avec des ONG. Mais il en a été empêché à la frontière d'Aflao et il a même été giflé.
Je ne dis pas Aflao, Aflao.
Lui, là, il a...
Non, s'il te plaît, vas-y.
Bonne arrivée. Bonne arrivée.
Ça nous a manqué.
Ok, il a été violenté. Et donc, automatiquement, lorsque l'organisation avait annoncé qu'on devait se rencontrer dans une église et qu'on leur a dit non, je pense qu'il faudrait commencer par se poser des questions. Si nous allons quelque part, est-ce que les gens ne vont pas chercher à nous empêcher de faire notre réunion? À partir de ce moment, il fallait prendre les dispositions idoines pour que cet incident-là n'arrive pas.
D'accord.
C'est vrai. Moi, je fais confiance à mes confrères.
Tu peux terminer?
Je fais confiance à mes confrères qui ont été violentés. Vous savez, si les gens ont pris soin de prendre leur appareil, de prendre leur matériel de travail, les jeter dans un puits, c'est pour éviter que des images circulent,
et pourtant,
que même des vidéos circulent.
Et pourtant.
Maintenant, je pense que les gens ont fait exprès pour qu'on n'ait pas assez d'éléments pour pouvoir montrer ceux qui ont fait cette bêtise.
Merci beaucoup, Eric.
Non, alors, c'est en cela que moi je dis que nous sommes avant tout des éclaireurs. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Nous sommes dans un régime de déclaration. Ce qui s'est passé là, c'est très grave. Un parti politique qui organise une réunion au sein de son siège. On vient les violenter. Et on dit,
quand on parle de parti politique organisé, pour une réunion, c'est que ceux qui sont là, ce sont des membres du parti politique.
Non, mais
il faut les connaître.
Arrête.
On doit
arrête.
Les connaître.
Non,
c'est pas une confusion.
S'il vous plaît. On laisse Sam, Eric, s'il vous plaît. On laisse Eric.
Non, c'est toi qui avais des
arguments.
Non, pas du tout. Nous avançons des arguties.
Nous faisons le débat pour que les uns et les autres, ceux qui sont à la maison puissent nous
écouter. Parle à ma place là.
Isidore, s'il te plaît.
Arrête de crier.
S'il te plaît, Isidore.
Arrête ça.
Moi je parlais.
Je pense.
Non,
Je pense. Non, mais si.
c'est le vernaculaire. Tu n'as rien à m'attendre.
Écoutez, Isidore. Et nous sommes des responsables.
Quand tu m'as donné la parole,
nous sommes en train
de faire. Je l'ai décliné.
Ce que nous sommes en train de faire. Le débat
est. Oui, écoutez. Ce qu'il veut.
Oui.
Et j'ai suivi que ce sont des abus.
Isidore, s'il te plaît, écoute-moi.
Et j'ai suivi que ce sont des abus.
C'est moi qui dirige. Qui
développe.
C'est moi qui dirige le débat.
Écoutez. Oui. Donc ça veut dire que si aujourd'hui,
oui,
moi, je fais une manifestation dans ma maison, c'est dangereux pour la République. Un parti politique qui organise une réunion à son siège doit être protégé. Même quand on nous dit que ce sont des patrouilles inopinées qui se passent, mais les gens sont là, vous y étiez, je n'y étais pas. Les forces de sécurité étaient des spectateurs devant ces gens-là. C'est ce qui s'est passé. Ah, de lui. Et on nous parlait de
d'autodéfense.
Non, arrêtons ça. On n'en a plus besoin. D'accord. On n'est pas le président de la République. Je vais revenir maintenant à la déclaration de notre ministre. Elle a tout faux. Elle a tout faux. Je l'ai suivi hier sur RFI, FSB. Quand je l'ai suivi sur BBC, je me dis, mais écoutez, donc, ce sont les militants de CDPAO et MDP qui ont attaqué, qui ont attaqué leur leader. Mais, écoutez, je vais lui faire rappeler quelque chose. Son passage à Ecobank, si elle veut... Moi, je vais sortir ce dossier.
D'accord, on n'en est pas là. Alors, je sais.
Ce que moi, je voudrais dire. Isidore, tu n'as plus la parole.
Et Thomas, vous pouvez couper le micro de Isidore. Alors, oui, mais... Non, oui, mais... Oui, Justin, c'est vrai que quand on écoute la déclaration du ministre de la Communication... quand on suit, moi je l'ai bien suivi, mais nulle part la ministre n'a condamné même le fait. Et même aussi pour ce qui concerne les journalistes, puisque elle est aussi ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, et les journalistes qui ont été victimes même d'ailleurs de ce fait, nulle part la ministre n'a condamné même cela. Mais attends, je n'ai pas compris.
Je ne sais pas si vous avez l'élément, sinon en fait vous devez le faire écouter aux auditeurs, comme ça chacun de nous fera également une.
Non, mais si c'est possible, il y a l'écrit, il y a la transcription.
Sur RFI et puis sur BBC.
Justement, il y a la transcription. Je vous lis cela très rapidement. Il y a de l'émotion, ce qui est normal, mais au-delà de l'émotion, beaucoup de mauvaise foi. Parce que le Togo est un pays de paix, de quiétude. Les circonstances déplorables dont nous parlons ne doivent pas alors nous amener à apporter des accusations gratuites, ce qu'on a pu entendre par-ci, par-là, mais encore une fois à donner à la justice togolaise tous les moyens de diligenter une enquête en bonne et due forme. Je pense d'autant moins qu'on devrait pointer un doigt accusateur sur le Togo et sur ses autorités que la liberté de réunion, la liberté d'expression ne sont pas en question. Je voudrais dire que cette violence n'a pas sa place dans la vie politique. Elle n'a pas sa place alors dans la vie tout court. Et souhaiter vraiment un prompt rétablissement aux blessés et former vraiment ardemment le vœu que notre pays, le Togo, continue de jouir de la paix, de la quiétude, que ce soit pour les Togolais ou pour toute personne qui foule le sol togolais. Amalgame. C'est ça. C'est ça.
Si on m'écoute à la maison, c'est bon maintenant.
C'est bon.
Voilà. Allez-y. Donc je disais que à travers ce que vous venez de lire, c'est le vrai visage du régime du Togo qui est exposé à la face du monde, et que à l'analyse de ce qui s'est passé le dimanche dernier, point par point, la manière dont ça a été planifié, parce qu'on a eu à interroger également les jeunes du quartier. Vous étiez avec nous,
on a parlé.
Les jeunes nous disaient que ceux-là qui ont commis ces barbaries se sont approchés d'eux à un moment donné pour savoir dans le quartier où on vendait la chambre indienne, communément appelée gay. Voilà, on doit rapporter beaucoup de choses dans le quartier. Ce qui veut dire que les gens sont venus dans l'intention du fait du mal, éventuellement de tuer. Heureusement qu'il n'y a pas eu de décès. Et tout à l'heure, je nous interpellais sur le fait que on doit énormément analyser cette situation-là avec beaucoup de tact. Donner l'impression que c'est parce qu'il y a un député qui est au Togo dans le cadre d'une mission et que lorsqu'on l'invite de surcroît un député du Parlement de la CDAO et qu'une formation politique ou sa consoeur, un député de la République togolaise, l'invite à une rencontre citoyenne. Et la rencontre a été interdite, c'est parce que l'endroit indiqué dans un premier temps, c'était dans l'enceinte d'une église et que c'est délocalisé. Mais que cela ne tienne, je porte en faux par rapport à ce que mon frère Eric disait tout à l'heure, le siège d'une formation politique, pour une formation politique, il y a les militants, il y a les sympathisants. On peut organiser une manifestation dans l'enceinte d'une formation politique. Je me rappelle que dans le cadre des activités des partis politiques, en tant que journaliste, lorsqu'on assistait à ce genre de rencontres, les mercredis ou les vendredis, les jeudis, pour expliquer l'actualité, il y a ceux-là qui ne sont pas des militants qui aussi sont là. Ça voudrait dire que dans le cas d'espèce, c'est la population togolaise qui est invitée. Maintenant, la rencontre citoyenne consisterait à faire quoi? Après l'exposé du député sénégalais Guy Marusagnan, la question sera adressée peut-être à l'assistance. Maintenant, de nous poser des questions sur le fonctionnement du Parlement de la CDAO. C'est parce que dans les dernières périodes, on l'a vu tellement s'agiter. Non seulement il a passé par tous les moyens pour empêcher Macky Sall de briguer un troisième mandat, et c'est quelqu'un qui est tellement au top chez lui au Sénégal, mais il a également fait découvrir sa personnalité au sein du Parlement de la CDAO. Donc sur cette base-là, on l'invite à échanger avec les gens. Donc on ne peut pas entamer l'échange sans entonner l'hymne national du Togo. Et c'est à partir de là que les coups sont partis. Donc qu'on ne nous prenne pas pour des cons. Donc sur cette base-là, moi je dis que...
J'ai posé une question. À quel moment, qu'est-ce qu'il a dit pour que les gens commencent par lancer des choses en disant que ça n'a pas été bien organisé? Est-ce que vous me suivez?
Je pense que nous allons en arrêter là. Surtout que le sujet, c'est vrai que ça fait débat et dans toute la semaine nous allons en parler. Bien sûr, vous comprenez même d'ailleurs le pourquoi il y a vraiment cette émotion au sein dans le studio. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et nous revenons juste après pour donner la parole à nos auditeurs.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu, les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
La SNBC se prend encore avec le grand jeu Capsule Jama. Du 15 septembre au 31 décembre 2024, ouvre une bouteille de Jama et gagne des lots incroyables. Rendez-vous dans ton point de vente préféré pour découvrir le lot dont la capsule de Jama Start Porter, Jama Pilsner, Jama Laja, Jama 228 et Jama Panaché. Maximise tes chances de gagner une voiture de marque BAIC de Diwa, des réfrigérateurs, des téléviseurs, des bons d'achat des produits Jama, des portables, des t-shirts, des décapsuleurs, des bouteilles de gaz, bref, plus de 200 000 lots à gagner avec Jama.
Vraiment?
Oui, je dis bien 200 000 lots à gagner. Attention, ta bouteille gratuite de 33 centilitres est à retirer immédiatement dans ton point de vente préféré. Plus d'infos sur le site internet de la SNB, sur la page Facebook et Instagram de Jama ou encore au 70 49 95 48 ou au 70 49 95 49. Règlement du jeu déposé au cabinet de Maître Tim C, huissier de justice. Avec Jama, on est ensemble.
De gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costume, deux ou trois pièces. saharienne. Blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. À haut de gamme de Canal Boutique, vous trouverez des parfums de grande qualité. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lonato. Contact 90 77 97 07.
Voulez-vous vous former dans une université d'excellence? Choisissez l'École supérieure de l'aéronautique et des technologies, ESAT Togo, qui forme des ingénieurs dans les domaines suivants: aéronautique, génie aéronautique, big data, intelligence artificielle, réseau de télécommunications, géomatique et topographie, pétrochimie, robotique et des licences en maintenance automobile, système embarqué, raffinage de pétrole et pétrochimie, géomatique appliquée. Agréé par l'État togolais, ESAT Togo est une filiale des Aptunis, une université accréditée par Label Euras. Les inscriptions sont ouvertes et limitées. Pour tout renseignement, retrouvez-nous à Agouet-Télésou ou rendez-vous sur notre site internet www.esat-togo.tg. Infoline 90 54 81 81 96 53 51 51. ESAT Togo, l'avenir commence ici.
Bonjour Tata, comment allez-vous?
Bonjour Irène. Chez moi, ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent, là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça, là. Nous bouffons tout, là.
Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank Mobile ou même de faire étoile 326 dièse.
Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de comptes, là, je ne maîtrise pas, hein.
Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1 plus 1 là.
Ah bon, Irène?
Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer.
Et, je dis, hein, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comme mon meunier.
C'est très simple, Tata. Je t'explique.
Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank Mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le plus de 128 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com.
Vous faire former en BTS, licence professionnelle ou master en cours du jour ou en cours du soir, l'Institut supérieur de management et du développement ISMAD est la bonne adresse.
ISMAD forme dans les sciences économiques et de gestion, les sciences agronomiques, en sciences juridiques et de l'administration et en sciences de l'ingénieur comme
génie électrique,
génie civil,
télécom et maintenance informatique et réseau, etc.
Pour la nouvelle année académique, ISMAD se rapproche de vous avec l'ouverture d'une annexe à Agouet-Télésou, entreprise de l'Union.
Nous vous offrons également plusieurs facilités financières ainsi que des bourses allant jusqu'à 100% des frais de scolarité.
Les inscriptions ont commencé et se poursuivent au siège de l'ISMAD, si à Lomé Casablanca, à côté du lycée de Tocoin Solidarité, et à l'annexe si à Agouet-Télésou, près de l'agence FUSEC, entreprise de l'Union. Renseignements
90 18 81 06
90 09 29 53.
Du 8 au 14 octobre 2024, le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé vous ouvre les portes de sa 11e édition sur le thème « Agriculture durable, gage d'une sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique » autour des expositions, des panels, des rencontres professionnelles et des concours. Vous avez des projets agricoles et vous recherchez du matériel agricole, des partenaires techniques et financiers? Vous voulez conduire des projets en élevage ou vous êtes un acteur des produits agricoles locaux? Venez échanger avec les acteurs nationaux et internationaux. Le Cialo, c'est aussi un pôle de produits bio et une expo élevage du 8 au 14 octobre 2024. Entrée libre et gratuite. Info 70 24 88 13. www.salon-agriculture.tg. Cialo, de la terre à la table.
Le plaisir pour l'acquérir.
Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35, premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Décidément, notre ami n'a pas de retour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Ça va bien.
C'est Johannes.
Oui.
Allez-y.
Vous savez, nous savons que en fait, tout peu grave peut se passer dans ce pays. Il y aura toujours des journalistes qui vont venir vouloir défendre l'indépendance, vouloir faire des analyses qui ne tiennent pas la route. Je me demande si le fait que, c'est-à-dire ce député de la CEDEAO, en fait, quand on dit que le premier endroit où l'événement voulait être organisé, parce que les autorités ont joué des mains pour que ce ne soit plus, ça soit annulé à cet endroit. Donc, pour cette raison, ça devait être une sonnette d'alarme pour les organisateurs. Comment on peut tenir un raisonnement comme ça? C'est-à-dire que maintenant, on doit protéger des gens sur le territoire contre les dirigeants. C'est-à-dire, le député doit être protégé contre les dirigeants du Togo, c'est ça? On veut nous dire ou bien quoi? Je n'arrive pas à comprendre cela. Mais c'est dommage. Mais nous savons que, c'est-à-dire, les émissions vont se succéder, on va les envoyer dans toutes les émissions pour pouvoir pour venir développer, pour embrouiller les Togolais.
Allô, Johannes? Johannes, oui. Je voudrais que vous donniez votre argument par rapport à ce que nous avons dit, que de parler des confrères et tout. Parlez-nous plutôt alors, donnez-nous des arguments.
Suivez-moi bien, c'est mon argument que je suis en train de donner.
Oui,
je peux parler d'un journaliste, mais sans insulter un journaliste, mais je suis libre de parler d'un journaliste. Je pense que je n'ai pas insulté des journalistes.
Allez-y.
Voilà. Donc on va les envoyer pour vouloir faire des analyses, pour détourner nos regards, pour trouver l'intention des citoyens. Mais nous savons que ce qui est indéfendable, c'est indéfendable. Merci.
D'accord, merci Johannes pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour mon frère.
Comment vous allez?
Bien et vous?
Ça va, c'est Patrick?
C'est Patrick.
D'accord, allez-y Patrick.
Dans un premier temps, j'aimerais quand même dire à nos grands frères
Patrick,
oui.
Il semble que votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Si vous pouvez diminuer son volume, ce sera bon. Allô, Patrick?
Ça peut aller maintenant?
Oui, ça va maintenant. Allez-y.
D'accord. Ça dit, j'ai une fois dit sur votre antenne que l'émission là, c'est un rendez-vous du donner du recevoir. Donc il va falloir que chacun se temporise. Qu'il parle doucement, nous allons comprendre. J'aime bien l'intervention de Isidore qui m'a manqué d'ailleurs, que j'ai demandé d'après Lucas, il ne venait pas. Donc, sur ce, que ça soit calmé et que nous comprenons mutuellement. Pour revenir dans l'émission, monsieur Gino Tonola.
Pascal?
Voilà, Pascal.
Oui.
Je pense qu'il y a quelques semaines, vous avez reçu le ministre de la sécurité.
Tout à fait.
Et c'est un monsieur qui nous a bien parlé. C'est un monsieur qui a bien éclairci les choses. Apparemment, on sent en lui un travail que moi, en tout cas personnellement, j'ai aimé. Ce qui s'est passé le dimanche dernier, nous tous, nous le condamnons. Nous tous, nous déplorons cet incident. Et je suis sûr que même au sein du NIR, il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est une chose. Maintenant, la scène s'est passée. L'acte est déjà là. Que faire? C'est vrai que ça s'est passé dans le passé et vous avez eu à citer des exemples. Mais c'est dans la vie de l'homme. Maintenant, comment faire pour que ça ne se reproduise plus? Le mal est déjà là. Sur ce, j'aurais souhaité. Vous savez, pour un déploiement des forces de l'ordre, il y a toujours un officier derrière. Il y a l'ordre qui vient de quelque part. Laissons les autorités Même si c'est des individus zélés qui ont fait ce problème, je sais que cet acte ne serait pas resté impuni. Ça, je suis d'accord, ça ne serait pas impuni. Donc, c'est vrai, ça fait mal en écoutant, même à l'international, ça fait mal. Mais quand même, mais comme ça se le disait, ne versons pas le bébé avec de l'eau. Donc, patientons-nous, on va voir ce que ça va donner.
D'accord. Bonne émission. Merci beaucoup, Patrick.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien, Abdel.
Je me porte bien.
D'accord, allez-y.
Je suis très heureux que, à l'unanimité, sur votre plateau, vous avez condamné cet acte. Cet acte qui vient ébranler des années d'efforts du président de la République à se donner d'abord à lui-même et au Togo une image à l'international. Je ne peux pas vous dire ce que je ressens. Et ce que je souhaite, c'est que nos autorités judiciaires et nos forces de l'ordre, et les responsables des forces de l'ordre, puissent traquer loin tous ces jeunes qui se sont prêtés à de tels actes. C'est que vous ne voyez pas le devant. C'est un précédent très dangereux pour la cohésion qu'il peut avoir entre les Sénégalais et les Togolais dans le futur. C'est un précédent dangereux. Vous connaissez le nombre de Togolais qui fonctionnent au Sénégal? Non. Donc, c'est ce que je voulais dire.
D'accord.
Revenant sur Sagnan. Sagnan, ce n'est pas n'importe quel député. Nous connaissons son degré d'engagement pour le panafricanisme. C'est vrai que en allant en cette réunion, il n'a pas mesuré tous les risques. J'aurais peut-être aimé, puisqu'il était dans le cadre d'une autre activité, qu'il puisse recevoir les responsables politiques, peut-être à son hôtel, au 2 février là-bas, pour amoindrir les risques. Mais bon, cela ne s'est pas passé, mais cela ne justifie pas qu'on pose des tels actes. La force, c'est pour les lâches. La force, c'est pour les lâches. Aujourd'hui, la politique, c'est le débat. Le débat contradictoire. C'est ça, la politique et la démocratie.
D'accord.
La force, c'est pour les lâches.
D'accord.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, Abdel, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Oui, Nyamavo, s'il vous plaît.
Oui, allez-y.
Oui, vraiment, c'est déplorable. La terminaison de la déclaration de Guy Sagna m'a satisfait en disant que ça prouve à suffisance que les citoyens togolais ne sont pas en sécurité. Si on attaque un parlementaire sénégalais, un parlementaire de la CEDEAO, ça veut dire que toute la CEDEAO est attaquée. Alors, ça veut dire qu'il a bien dit que les Togolais ne sont pas en sécurité. Souvenez-vous, je vous rappelle, ça veut dire que l'année 93, à Bouba dans un village, juste après avoir déclaré Bogonei, les gros bras. La police était là, heureusement, le jour-là, on l'a aidé à rentrer dans sa voiture. Et la campagne de l'UFC, à peine après avoir mis le pied à terre, les gros bras. La police encore les a accompagnés, ils sont passés. Ça veut dire que vers le nord, le policier même n'a pas accès à faire campagne. Des années 93. Aujourd'hui, je demande aux sociétés civiles de mettre les points focaux pour bien voir. Ce n'est pas sur les médias qu'on va finir. Tel que Guy Sagna l'a fait, avec ça, on va déculoter ceux-là qui sont ce qu'on appelle les individus, dont entre-temps le ministre avait appelé comme individus d'autodéfense, aujourd'hui on les appelle gros bras, opère devant les soldats, on ne les attaque pas, on jette les portables, les matériels des journalistes, vous demandez les preuves après. Or, la gendarmerie en présence est une preuve. Hein? Ça dit que la gendarmerie doit aider à donner les preuves, cette gendarmerie-là.
Hein?
D'avoir vu les gros bras et n'a pas réagi. Vous voyez ça. Donc, il y a des pistes qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de fait comme ça. On fait les élections ici, Même on voit les gens qu'on filme, qui sont en train de bourrer les urnes, on dit qu'on a porté des démentis. Et Jean-Pierre Favre avait dit qu'ils ont saisi les soldats qui étaient dans un bureau de vote. Mais bon, ok, voilà, on est en train de faire ceci ici, ils disent qu'ils ne sont pas, c'est pas leurs hommes. Ils sont venus pour sécuriser les lieux. D'accord. Mais on est en train de bourrer que ce n'est pas leur job. Vous voyez ?
Monsieur Niamago,
on ne s'attaque pas au fond de l'ordre seulement. Il y a ces individus-là, ces classes la tapis, de Lomé jusqu'à Saint-Cat, et c'est irréchargé dedans. Et vous voyez. Donc, du plus haut au plus bas, il y en a.
D'accord.
Donc, les Togolais souffrent.
Merci beaucoup, Monsieur Niamavo. Merci beaucoup. Hein, et je pense que vous êtes exprimé alors sur le sujet aussi largement. Et Niamavo, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Nous allons revenir en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission de ce mardi. Et Eric, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer aussi sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction ?
Je pense que tous les auditeurs ont pratiquement dit la même chose. Tout le monde condamne ce qui s'est passé le dimanche passé au siège de la CDPA. Mais je voudrais dire que les gens ne se sentent pas de notre siècle. Abdel l'a dit, il faut aujourd'hui des débats contradictoires et non l'utilisation de la force pour exprimer quand même sa position vis-à-vis d'une question politique. Surtout aujourd'hui, quand il dit que le chef de l'État fait des efforts pour que le pays soit en paix, pour que cette violence politique-là ne se retrouve plus dans la cité, je crois qu'il a raison. Et nous voyons aujourd'hui où veut aller l'autorité dans ce pays. Et je voudrais dire, dans mes propos, je disais tantôt qu'un officiel qui arrive sur notre territoire, dans notre pays, doit être forcément protégé. Par conséquent, lorsque M. Guy Marius Sagnan se déplace, il doit forcément avoir quelqu'un à ses côtés pour l'aider dans sa sécurité. Parce que lorsqu'il lui arrivera quelque chose, et malheureusement ce qui s'est produit, mais c'est le pays qui est mis sous la sellette.
D'accord. Isidore ?
Non, d'abord dire que ce qui s'est passé ne nous honore pas. Et j'ai dit que je vais choquer l'opinion. Disant que c'est nervi, c'est le terme utilisé par. Quand on parle de nervi, c'est des gens qui sont entretenus pour faire du mal. Si ça continue, ça n'honore pas la gouvernance de Faure Gnassingbé. Et c'est en cela que je l'interpelle. Tout ce que les gens ont déclaré pour se protéger ne l'arrange pas. Il n'a qu'à faire le ménage. Je prépare mes excuses à certains. Quand je parle de Agussi, je vais tout simplement dire que ce sont des arguments qui sont tirés par le chevet et que je ne peux jamais accepter. D'accord. Je n'ai pas la langue de bois. Je dis les choses telles qu'elles sont.
D'accord.
Toutes mes excuses.
Ok, merci Isidore. Justin ?
Mais les lâches, nervés ont toujours tué au Togo dans l'impunité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le chef de l'État a interpellé. Si véritablement les efforts ont été faits dans les dernières périodes et qu'aujourd'hui on en est encore là, il a intérêt, si véritablement, s'il est au courant, s'il est mené, ou c'est pas ni de près ou de l'organisation de cette histoire-là, qui termine l'image du Togo aujourd'hui, il doit sévir. Et je reviens également sur le fait que M. Niamavo qui le dit tout à l'heure, c'est un rappel, je me rappelle en 2003, nous étions dans la campagne présidentielle avec Maître Agouibo. On était arrivé à Sotoubois en rentrant, voilà, au cours d'un meeting. Ces voyous, ces bandits-là, se sont permis maintenant d'arracher le micro à Maître Agouibo. Et je me rappelle également dernièrement En 2020, au cours de la campagne présidentielle, nous étions dans le convoi de, du candidat de l'ANC, M. Jean-Pierre Favre. On était arrivés à Bassa, les mêmes personnes, sous le regard passif des corps habillés, ont semé de grabuge. Donc, c'est des choses qui n'arrivent pas. Bon, je conclue en disant tout simplement que lorsque un régime est là qui veut s'éterniser et que le moyen que l'on trouve, c'est de s'appuyer sur la violence politique, dans l'impunité, l'extrémisme violent dont il est question aujourd'hui, je pense que la balle est aujourd'hui dans le camp. On a toujours battu les députés togolais, on a toujours battu, Mme Adjamangou a été battue, l'ex-député Targone Sambiré a été battu, traîné, et comme n'importe quoi la fois dernière. Je pense que ce sont des pratiques qui ne sont pas nouvelles au Togo, mais il va falloir que les décideurs puissent passer par tous les moyens pour arrêter tout ça.
Ok, Sam.
Alors, moi, mon intervention va tourner autour des journalistes, de nos confrères journalistes qui ont été blessés. Les uns et les autres ont souhaité qu'il y ait une enquête, qu'on puisse identifier les journalistes qui ont été pris comme des victimes collatérales, qui ont été des victimes collatérales de cet incident-là. Et demander peut-être, je ne sais pas si c'est au ministère de la Communication et des Médias ou c'est au ministère de la Sécurité, en attendant que les auteurs soient identifiés, qu'on essaie au moins de prendre en charge les frais de soins de ces journalistes. Parce que des gens ont été blessés, ils sont allés à l'hôpital,
tout à fait.
Leur matériel de travail a été saccagé. Il faut au moins faire l'état des lieux de ce qui est arrivé à nos confrères pour qu'on puisse au moins les soutenir en attendant qu'une enquête aboutisse.
D'accord. Eric, merci d'être passé dans cette émission. Isidore Color, nous sommes très heureux de te retrouver.
Merci d'être passé. Et si j'ai encore saccagé la baraque.
Tu en as l'habitude.
Oui, souvent c'est ton habitude.
C'est ça qui t'a valu au congé.
C'est
ça qui t'a valu au congé.
Voilà. Merci beaucoup, Isidore. Merci, Justin, d'être passé dans cette émission.
C'est avec plaisir.
Sam Zobo, merci à toi d'être passé aussi dans cette émission. Nous sommes à la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés aussi. Thomas était, Kossida TV a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lessou. Je vous retrouve demain, mercredi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Canal FM.